Alors, si vous voulez vous lever, on va lire le passage qu'on va étudier aujourd'hui. On va aller dans Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 21. 19, 11 à 21. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent dans leur chair. Si vous voulez vous asseoir. Je dois vous dire que dans tous les sermons que j'ai préparés dans ma vie, c'est un des sermons qui m'a procuré le plus grand plaisir de l'âme. J'ai mis beaucoup de temps à le préparer, plus que d'habitude. J'ai mis 40 heures à préparer ce sermon-là. 40 heures. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai pesé, j'ai prié. C'est un passage qui... Tu sais, il y a des passages qui viennent nous chercher, qui nous touchent. Pourquoi ça me touche tant? C'est parce que je vois la victoire de Jésus, du Christ. Tu sais, on voit le livre de l'Apocalypse nous montre que les forces du mal vont s'unir pour former un gouvernement mondial, une religion mondiale, et pour chercher à amener les hommes dans le royaume du malin. Et ils vont réussir jusqu'à un certain point, comme on l'a lu dans certains chapitres. Mais ici, on est rendu au passage où le Seigneur nous montre où il va mettre le point final à tout ça. Et pour moi, ça a été un plaisir énorme que de tout lire, qu'est-ce qu'il y avait à lire sur ça, parce que de voir la bête, on avait parlé que la bête, c'était l'ensemble des gouvernements qui se rebellaient contre Dieu. C'est gros, là. Et la faux prophète, c'est l'ensemble de toutes les fausses religions du monde qui dans lesquelles Christ n'est pas là-dedans. Dans le fond, c'est pas juste les deux personnages qui sont jetés là-dedans. C'est très important de saisir ça. Ce qui est en train de se passer, c'est que le Seigneur nous fait voir le moment de son retour. Comment ça va se passer et qu'est-ce qui va être détruit et l'ampleur de tout ça. C'est impressionnant quand tu te mets à regarder ça, là. Ça prend de la puissance pour être capable de faire des choses pareilles. Pas pour rien que le livre de l'Apocalypse en anglais, puis même dans certaines versions françaises, s'appelle « La Révélation ». La révélation, ça veut dire que c'est le livre dans lequel on révèle la personne de Christ. Ça veut-tu dire que dans le reste des Écritures, on ne le révélait pas? Non. Mais ça veut dire que c'est le livre... J'ai lu une phrase intelligente que j'ai vue dans un commentaire. Il dit « L'Apocalypse, c'est la gare centrale de tous les livres de la Bible. » Vous savez, j'étais dans une gare centrale. Les premières années de ma vie que je suis allé à Montréal et que tu vois la gare centrale, la quantité de trac qu'il y a là, ça arrive de tout partout, les trains. Là. Bien, quand on dit que l'Apocalypse, c'est la gare centrale de tous les livres de la Bible, autrement dit, tout ce qui a été dit dans tous les livres, de l'Ancien et du Nouveau Testament, ça atterrit là. Pourquoi? Parce que le mot le dit, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Une révélation, c'est un voile enlevé. On prend un voile, on l'enlève. Ça veut-tu dire qu'on ne connaissait rien de Jésus-Christ avant d'arriver à l'Apocalypse? Non, on connaissait plein de choses. Mais là, ils veulent nous en montrer des aspects qu'on n'avait peut-être pas vus avant. C'est pour ça que je trouve le passage tellement intéressant à lire. Alors, on va regarder trois grandes idées à l'intérieur de ce passage-là. Je vous dis très sincèrement, là, j'aurais aucune difficulté à faire 10 sermons avec ce serment, avec ce passage-là. Sérieux, c'est riche. Parce que si tu fais le lien avec tous les autres livres des Écritures dans lesquels tout est préparé pour arriver à ça, on assiste, j'ai donné comme titre au sermon d'aujourd'hui, la deuxième venue du grand roi. Qu'est-ce qu'on veut dire par la deuxième venue? Le Seigneur, as-tu promis qu'il viendrait une deuxième fois? On l'attend-tu? Il va venir une deuxième fois. Et là, c'est le passage dans lequel il nous décrit comment ça va se passer lorsqu'il va venir la deuxième fois. La deuxième venue du grand roi Jésus-Christ, sa finale et triomphale victoire. C'est pour ça que ça me donne un si grand velours. Sa finale, donc, il n'y aura plus de combat à ça. On va rentrer dans le chapitre 20, en tout cas, c'est une autre histoire. On va commencer par faire une remarque que le chapitre 19 nous donne. Le chapitre 19 nous présente un parallèle fort contrasté entre deux repas. Si vous prenez le chapitre 19 et vous relisez, vous allez voir que les premiers versets 1 à 10 parlent des noces de l'agneau. Qu'est-ce qu'on voit dans les noces de l'agneau? On voit de la joie, on voit du triomphe, on voit des choses intéressantes. Des bénédictions, des festivités. Verset 7 à 10 nous dit ça. Et dans la deuxième partie, celle qu'on est en train d'étudier, on parle de deux repas, là. Les noces de l'agneau et on parle du festin du grand roi. C'est quoi le festin du grand roi? Le jugement par lequel le Seigneur va se débarrasser de tout ce qui est contre lui, les forces qui se sont unies contre lui. Il va les détruire au complet. Il va appeler les oiseaux du ciel à venir se nourrir de leur chair. C'est un carnage extraordinaire. Et la Bible appelle ça le festin du grand roi. C'est spécial, hein? Et vraiment, le festin du grand roi, quand on se met à le regarder d'aplomb, comme on pourrait dire, on pourrait dire qu'il est saturé d'images terrifiantes. Attends, on parle de toute la terre. Combien il va y avoir d'êtres humains sur la terre au moment où le Seigneur va arriver? Si on se fie aux statistiques actuelles, c'est quelque chose comme 8 milliards. C'est du monde, comme on dit, là. Alors, des images terrifiantes et vraiment cauchemardesques qui concernent le sort des ennemis de Dieu et de leur sévère jugement et de leur destinée éternelle dans le lac de feu qui sont décrites au verset 17 à 21. Il prend tout ce monde-là puis il shoot ça dans le lac de feu. Mes amis, si on pense qu'on a compris c'est quoi l'enfer, il faudrait vraiment prier le Seigneur qu'il nous ouvre l'intelligence à la compréhension Et à l'aspect terrible de ça, on ne peut pas vraiment s'imaginer jusqu'à quel point c'est grave, ça, ici. Là. Il prend l'humanité qui s'est battue contre son fils, le Christ, et il les jette vivants dans le lac de feu et de soufre. C'est un passage extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est pour ça que ça me donne un grand plaisir, parce que je me dis, enfin. Tu sais, des fois, on voit la situation se passer actuellement. De l'extérieur ou de l'observation humaine, on serait porté à penser que le malin est en train de gagner la game, comme on dit. Le passage ici nous rappelle, non, il ne gagne pas la game. Il perd la game. Alors, ce passage, je pense qu'il faut réaliser qu'il s'inscrit très harmonieusement dans le thème général du livre de l'Apocalypse, soit la révélation ou le dévoilement. Si après, je suis rendu au chapitre 19, là. J'espère que j'ai réussi à vous faire voir le Seigneur Jésus-Christ plus grand qu'est-ce que vous le voyez avant. Sinon, je manquais mon coup. Parce que le but de l'Apocalypse, c'est ça, c'est de nous révéler, dévoiler la grandeur, la puissance, la perfection, la sainteté. Et la liste sera jamais assez longue parce qu'il a toutes les mêmes choses que Dieu. Jésus est Dieu. Donc, à quelque part, on n'aura jamais fini de découvrir jusqu'à quel point il l'est. On va le voir tantôt quand on va parler d'un nom que lui seul connaît. Spécial. Pourquoi il est lui seul qui le connaît, le nom? Il y a un nom, il y a quatre noms qui sont mentionnés là-dedans. Trois qu'on va expliquer. Un qui dit que lui seul connaît. Quand tu connais le nom d'une personne, c'est parce que tu connais vraiment la nature, l'essence même de la personne. Et on va voir que la glorieuse personne de Jésus-Christ, à un moment donné, si on étudie l'Apocalypse et qu'on ne voit pas mieux, plus la glorieuse personne de Christ, on a vraiment manqué le bateau, il faut le relire. Et moi, ce que j'ai remarqué, puisque je peux vous partager ce matin, j'avais dit, il y a du monde qui m'ont dit, quand j'ai dit je prêche l'Apocalypse, ils ont dit, « Marcel, t'es courageux. » J'ai dit, « Non, je le fais pas parce que je suis courageux. Je le fais pas parce que je me pense plus fin qu'un autre. Bien au contraire. Mais je le fais parce que dans Apocalypse 1, verset 3, ça dit, « Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de cette prophétie. » Heureux, ça veut dire, si il y a une bénédiction de rattacher à l'étude, à la lecture du livre de l'Apocalypse. Et moi, je peux vous dire une chose, je ne sais pas si ça vous le fait pour vous, mais ça le fait pour moi. Très certainement, c'est la partie des Écritures que dans tout ce que j'ai lu des Écritures qui m'a amené le plus grand plaisir. Vraiment un grand plaisir, parce que Dieu est en train de nous montrer jusqu'à quel point Christ est grand. À quel point Christ est fort, à quel point Christ est puissant. C'est lui qui revient, là. C'est lui qui va faire ça. C'est pas un deux de pique, puis juste un homme qu'on est habitué de lire les évangiles. Qu'est-ce qu'on voit dans l'évangile? Un Jésus humain. Les apôtres, ils ont vécu avec lui pendant 3 ans. Ils lui ont vu faire une multitude de miracles, une multitude de gestes de bonté et d'amour. Et au bout de 3 ans, il ne s'était même pas encore rendu compte qui était. Ça a pris la résurrection, ça a pris la Pentecôte, ça a pris l'envoi du Saint-Esprit pour qu'il réalise ce qui se passait. Qui était ce personnage? Et l'Apocalypse nous le dévoile. Tu sais, quand j'étais jeune, là, je me souviens, j'avais 10 ans, il y avait un garage pas loin de chez nous, puis au mois de septembre, il n'était pas question que tu vois les nouveaux modèles avant là, telle date, là, disons le 20 septembre. Il mettait un voile par-dessus. Puis la journée qui enlevait le voile, là, il y avait du monde, mon Dieu, on a fait un méga cycle. On allait voir les nouveaux modèles quand ils enlevaient le voile. Ah! On voyait! C'est ça le dévoilement. Mais le dévoilement de Christ, bien sûr, on ne peut pas comparer ça à un dévoilement d'auto, là, mais il reste que l'image est quand même bonne. Tu enlèves ce que tu ne vois pas. T'enlève pour le voir, qu'est-ce qu'il y a en arrière du Dieu. Alors, moi, je vous disais dans les notes, ce dévoilement provoque dans notre âme de croyant un émerveillement grandiose. Parce que, il y a des fois, quand tu pries, Jésus, jusqu'à quel point tu es conscient de sa grandeur. Tu sais, disons qu'on prendrait tous les attributs là, du Dieu, toute la gang, on étudierait. La Bible nous dit qu'on n'aura jamais fini de découvrir l'insondable. Il est insondable. La grandeur de Jésus-Christ est insondable. Ça a de quoi nous émerveiller. Vraiment grandiose. Nous découvrons par l'étude des Écritures, par l'étude de l'Apocalypse, qui est véritablement Jésus-Christ, un grand roi. Quand on dit un grand roi, c'est pas pour rien qu'un de ses titres là-dedans dit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Pas ce qu'on saisit. Tous les rois qui sont sur la terre, tous les grands dirigeants, des fois c'est plus des rois, aujourd'hui c'est des premiers ministres ou des présidents. Quand on dit qu'il est le roi des rois, ça veut dire qu'il est l'autorité et il est capable d'agir sur l'esprit de ces gens-là d'une façon absolue. Hey, Seigneur des seigneurs, ça veut dire que ceux qui sont seigneurs, qui ont quelque autorité ou quelque puissance que ce soit, ben, il les domine aussi et il peut faire ce qu'il veut avec. La Bible dit, dans Proverbes, ça dit que comme un courant d'eau. Tu sais, on prend un courant d'eau, on peut le diriger. Quand on met notre main en dessous de... On peut diriger ça comme on veut. Hein? On peut l'envoyer à gauche, l'envoyer à droite. Mais le Seigneur, il dit que pour l'esprit des rois, là, c'est exactement la même chose. Fait que s'il est capable de le faire avec l'esprit des rois, pensez-vous qu'il est capable de le faire avec le nôtre? Il est capable, il contrôle l'esprit de tout ce qu'il y a sur la terre de vie. Quand on se met à réaliser, quand on dit, ça nous emmène... vraiment dans un état d'émerveillement. Et le Seigneur est d'une puissance inimaginable. Quand on pense, là, disons, tu dis tous les gouvernements de la terre. On en voit-tu des injustices aujourd'hui? Puis là, on se dit, comment on fera bien pour enlever ces bandits-là de là? Et là, on sait que les hommes sont pourris, ils sont vraiment capables de s'organiser entre eux pour enlever ces bandits-là de là. Mais quand le Seigneur va dire, t'as assez, c'est fini. Et misère. C'est là qu'on va voir ça se réaliser devant nos yeux. Et la Bible nous dit aussi qu'il est d'une fidélité et d'une vérité sans faille. S'il y a un moment dans l'histoire des hommes où on peut réaliser l'importance et la préciosité de ce qu'on appelle la vérité, bien aujourd'hui, on est inondé. On baigne littéralement dans le mensonge tout autour de nous. C'est épouvantable. La Bible dit, le nom de Jésus, c'est fidèle. Donc, ce qu'il a dit, même dans Genèse 3,15, il a dit qu'il enverrait éventuellement un Messie. On recule de 6000 ans. Il est fidèle. Il l'a envoyé, Jésus. Ça a pris 4000 ans, mais il l'a envoyé quand même. Puis là, ça fait 2000 ans qu'il est venu. Et tout ce qu'il a dit, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ça va s'accomplir. Parce qu'il est fidèle. Quand il dit de quoi, il n'est pas comme nous autres. Nous autres, on dit de quoi, puis bien souvent, on ne fait pas ce qu'on a dit. Mais lui, il fait toujours pleinement ce qu'il dit. Et l'autre chose qu'on se doit de prendre conscience dans l'étude de ce passage-là, c'est qu'il est souverain sur la vie des individus et des nations. Quand on regarde l'histoire de l'homme, tous les continents, tout comment ça s'est passé, comment la France est apparue à quelle époque, l'Allemagne est apparue à quelle époque, le Canada, les États-Unis, on est porté à penser que c'est les hommes qui ont décidé les territoires, puis tout ça. Non, la Bible nous dit que c'est Christ qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre, qui a décidé quelle nation aurait quel pouvoir pendant combien de temps. Plus on étudie le livre de l'Apocalypse, plus on voit la grandeur de Christ, plus on voit sa puissance. Le fait de réaliser sa souveraineté sur les nations, l'ensemble des nations de la Terre, je pense qu'on est rendu à 160 et quelques nations, 176, je pense, pays dans le monde. Ça veut dire qu'il les contrôle de façon absolue et entière. Collectivement, il contrôle les présidents, les rois, tout ça. Mais il contrôle aussi les individus. Pour nous, c'est une leçon importante à savoir que Jésus, il contrôle chaque église locale. Il sait ce qui se passe ici. Il sait tous les problèmes qu'on a. Puis puis il sait toutes les forces qu'on a, puis il sait toutes nos faiblesses aussi. Puis dans, c'est la même chose pour chacun des individus qui la composent. Il nous connaît à la perfection. Il sait où sont nos problèmes, nos difficultés. C'est un juge aussi rigoureux et infiniment juste. Un juge rigoureux. Aujourd'hui, là, quand on a comme la commission Cliche ou toutes ces histoires-là, où on cherche à mettre la lumière sur la criminalité qui se passe dans la société, on prend juste le Québec, on pourrait aller dans le monde entier, ça aboutit souvent, ce qu'on appelle, c'est qu'un éléphant qui accouche d'une souris. Il y a une grosse affaire, ils font une grosse enquête, puis ça aboutit qu'il n'y a pas de résultats partout. Ça, c'est un juge rigoureux. Les juges humains, là, sont tous achetables, puis sont tous achetés en général. Ici, on parle d'un juge rigoureux. Quand le Seigneur va regarder les actions des hommes, tant de façon collective que de façon individuelle, son jugement va être rigoureux. Quand tu dis, il n'y a rien qui va passer. Tu sais, les hommes, « Ah, oh, t'es un bon avocat, va aller voir un bon avocat, moi, il donner 200 000, va m'en sortir. » Puis la preuve, tu regardes aller, ils s'en sortent presque tous. Mais dis-toi une chose, quand tu vas comparaître devant Christ, tu t'en tireras plus. Il n'y a rien qui va passer. Il n'y a rien. Ça, c'est jouissif. Hein? Quand on pense à ça, là, OK, là, tu vas voir ton avocat, tu t'en tires, tu ris de nous autres, puis des fois, il nous rit en pleine face. Mais devant le Seigneur, tu ne feras pas ça. Là. T'es un juge rigoureux et infiniment juste. Il n'y aura pas une petite affaire qu'il va te donner que tu ne mériteras pas pleinement. La justice, on a tous faim et soif de justice. C'est un conquérant invincible parce que depuis le début, la guerre dure depuis que Satan est rentré dans le monde. Il a toujours eu des combats, il va toujours en avoir, et jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et c'est un rédempteur aussi qui est rempli de grâce, de miséricorde et d'amour pour ses élus. La preuve, c'est quelqu'un qui va faire ce travail-là de jeter tout le monde dans le lac de feu qui sont ses ennemis. Nous autres, on va être où? Les noces de l'agneau! On va être épargnés de tout cela. Pourquoi? Parce qu'on croit en lui. La Bible nous dit que croire en lui, ça nous évite la punition qui était rattachée à ton péché. Donc, c'est un passage qui nous enseigne beaucoup de choses, beaucoup de vérités sur la personne de Jésus-Christ, sur ses attributs divins, sur son œuvre. On pourrait aller bien loin avec ça. Maintenant, on va regarder la première partie qu'on voulait, Jésus-Christ, le grand roi. La première idée que j'ai voulu amener, c'est invincibilité. Versets 11 à 16. Qu'est-ce que ça veut dire, invincible? Tu as un ennemi, si tu ne penses pas que tu es capable de le vaincre, tu l'attaqueras pas. Invincible, ça veut dire que quelqu'un n'est pas attaquable, tu ne peux pas le vaincre. Et c'est ça, Jésus ne peut pas être attaqué. C'est sûr, il est attaqué un peu partout dans le monde. Mais je veux dire, il ne peut pas être attaqué dans le but que tu penses réussir. C'est ça l'audace du péché, le blasphème de la fin des temps, où ils vont se rassembler et ils vont croire qu'ils sont capables de vaincre Jésus. Quand il va revenir, là, ça dit dans le livre de l'Apocalypse, ils vont se cacher dans les trous de la terre, ils vont avoir tellement peur, là, ils vont se cacher dans les cavernes de la terre. Alors, on relit le passage, juste les versets 11 à 16, parce qu'on parle de son invincibilité. « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Juste faire remarquer que dans le chapitre 4, au verset 1, on avait appris quelque chose. Ça disait « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Ici, remarquez, il y a deux... Si on regarde le chapitre 4, verset 1, ça dit qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et là, ça ne dit pas qu'il y a une porte, ça dit que le ciel est ouvert. Wow! C'est quelque chose. Alors, cette porte avait été ouverte pour que Jean puisse y regarder. Il avait vu, à travers cette porte, la fameuse vision du trône, où tous les êtres autour du trône étaient en adoration devant le Dieu Saint. On se doit de noter, bien entendu, une différence importante. Maintenant, Jean voit le ciel même, qui est tout grand ouvert. Ce ciel ouvert fait voir de grandes choses qui vont bientôt se produire. Le mot traduit ici par « voici » ou « behold » en anglais est une invitation à s'arrêter, à considérer sérieusement et attentivement et à prendre profondément conscience et à la réflexion sur un fait. Ça, on perd de ça de vue. Souvent, « behold » en anglais, là, quand tu regardes dans les commentaires, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ça veut dire « arrête-toi, réfléchis, sois attentif à ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui va être révélé ici. » Quand on dit « voici », le mot en anglais « behold », il traduit cette expression-là. C'est vraiment l'idée « et voici, arrête, prends du temps ». Pour réfléchir à ce qui est dit, pour en comprendre la portée, le sens, la signification. Alors, le verset 11, la première partie du verset 11, vraiment, son invincibilité est illustrée par le fait qu'il est un conquérant, toujours vainqueur. On sait qu'il y a eu des conquérants au cours de l'histoire. Alexandre le Grand, par exemple, était un conquérant qui n'a pas perdu grande bataille, mais il peut en avoir perdu, mais... Tu es quand même un conquérant. Jésus est un conquérant toujours vainqueur. Pas pareil. Ici, Jésus est représenté comme un cavalier monté sur un cheval blanc. C'est important de réaliser que les chefs militaires de l'Antiquité, disons les Romains, quand ils allaient combattre à quelque part d'un pays, puis ils revenaient, là, puis ils avaient ramasser un territoire que la Rome n'avait pas, disons. Quand il revenait, le chef, le général, était toujours assis sur un cheval blanc. Parce qu'il y a beaucoup de symbolisme. Juste pour le fun, faites une recherche, allez dans Wikipédia, puis marquez « cheval ». Vous allez voir que ce qu'ils disent sur tout le symbolisme du cheval. C'est extrêmement important. C'est sûr que je ne peux pas tout mettre ça dans une leçon, ce sera trop long. Mais c'est très... instructif de voir que le mot « cheval » à l'intérieur de ça, ça veut-tu dire que Jésus va arriver qu'un vrai cheval, là, va être assis sur un vrai... C'est du symbolisme. C'est important de saisir ça. Alors, là, des grands retours, là, quand les généraux revenaient des grandes batailles, des grandes victoires, le cheval blanc, au cours de l'histoire des hommes, est devenu un symbole de guerre et de domination politique au cours de l'histoire. Le symbolisme du cheval est surtout utilisé le pouvoir de celui qui le monte, pour montrer le pouvoir de celui qui le monte. Le cheval blanc, le but du cheval blanc, c'est pour montrer le pouvoir de celui qui le monte. Si vous voyez, par exemple, Napoléon, vous allez toujours voir Napoléon sur un cheval, il n'est pas blanc, mais en tout cas, il est assis sur un cheval, le cheval, il les pattes en l'air, puis lui... Le cheval a pour but de montrer la puissance de celui qui le monte. Alors ici, c'est la même chose. Alors la couleur blanche, bien sûr, ça véhicule l'idée de pureté, de sainteté, d'éclat, et de brillance. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça attire le regard et ça focalise l'attention. Le cavalier est présenté comme victorieux. Ça, c'est intéressant. La guerre n'a pas eu lieu encore, parce que, dans le fond, la guerre va se dérouler dans les versets qui suivent, mais il est déjà sur un cheval blanc avant même que la guerre commence. C'est très, très significatif. Il n'y a rien dans les Écritures qui n'est pas significatif. Je pense qu'on ne s'arrête pas à méditer. Alors, le cavalier est représenté comme victorieux avant même que le combat n'ait lieu. Il juge et combat avec justice. Alors, il utilise deux méthodes principales. L'épée et la providence. Très intéressant de faire le... Il utilise sa parole pour régler des problèmes. Quand on pense, quand on dit qu'il est capable de maintenir l'univers en place par la parole, on voit-tu la puissance de Jésus capable de maintenir l'univers en place, pas par la force de ses bras, parce qu'on parle juste de sa parole. Sa parole fait en sorte que l'univers, ça reste en place, c'est à cause de Christ. C'est une puissance extraordinaire. Donc, il utilise deux méthodes, l'épée et la providence. La providence, c'est quoi? On l'étudie souvent. La providence, c'est l'ensemble des circonstances que le Seigneur envoie sur toute la terre, à tous les individus, à toutes les nations. Il utilise les deux pour arriver à ses fins. Là, on arrive au verset 11, où on nous parle des noms. Très intéressant, les noms. Le premier nom qui est mentionné, pour celui qui monte le cheval blanc, c'est, ça ne dit pas un fidèle et un véritable. Le fidèle et le véritable. Alors, on a dans Ésaïe, au chapitre 11, versets 1 à 5, on a une prophétie sur Jésus, sur le Christ. Alors, Jésus n'était pas encore venu dans Ésaïe. C'était une prophétie qui était pour venir. Et quelles seraient ses caractéristiques? Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et il ne décidera pas sur un ouï-dire, mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et il fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins, et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Quand tu dis, tu fais mourir le méchant par le souffle de ta bouche, il y a quelque chose, on ne s'arrête pas, hein? Tu es capable de faire mourir quelque chose juste pour ta parole. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant, de pas à peu près dans Jésus-Christ. Quand il nous dit aussi, dans le deuxième nom qui est mentionné dans le verset 13, là, on va regarder les noms qui sont mentionnés dans le texte. Il y en a un qui est, dans le verset 13, ça dit la parole de Dieu. Si on veut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par la parole de Dieu, il faut aller dans Jean 1, les versets 1 à 4 et verset 14. On a traduit « logos » par « parole ». Mais le logos, c'est le principe de création. Il est capable de dire, par ta parole, de créer un monde et de créer l'ordre qui y règne. C'est tellement... Les versets, Jean 1, c'est d'une puissance extraordinaire, le mot logos. Ça se dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On parle de qui, là? On parle de Jésus-Christ. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Jésus, qui était Dieu, il était Dieu, il est venu s'incarner dans une chair d'homme, et il est devenu l'homme-Dieu, avec le trait d'union. Il était à la fois pleinement homme, et il était aussi à la fois pleinement Dieu. Et il a habité parmi nous. C'est Jean qui parle. S'il y en a un qui l'a bien connu, bien lui, il était un préféré du Seigneur. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le terme « logos » indique plusieurs choses sur Jésus. Premièrement, sa préexistence éternelle. Ça veut dire qu'avant même que les hommes le voient devant eux comme un homme, il existait en forme de Dieu dans toute l'éternité. Préexistence éternelle, il existait en forme de Dieu avant. On apprend aussi sa déité. Ça ici, si on s'arrêtait vraiment, c'est extraordinaire. Jésus, Dieu, quand on dit Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu sur cette terre et dans la personne de Jésus-Christ, toute la déité, toutes les... Quand on étudie la théologie, puis qu'on commence à étudier, on a plein les bottines, on peut dire une affaire. Hein. Mais Jésus, il était tout ça, sa déité. Et aussi qu'il est l'agent de la création. Autrement dit, il n'y a rien, comme ça dit dans le verset Jean 1, il n'y a rien qui a été fait sans que lui participe. Il était dans le processus de la création. Après ça, ça dit qu'il est devenu chair. Et la Bible nous dit qu'il est le porteur de la révélation. Donc, Dieu a voulu se servir de lui pour aller plus loin dans la révélation de lui-même. Donc, il est venu révéler la vie, la lumière, la grâce, la vérité, la gloire de Dieu et Dieu lui-même. Tout l'Évangile élabore ce thème. Il y a un verset important dans Colossiens, au chapitre 2, verset 9. Quand on parle de Christ, on parle de lui, là. Parce que dans tout, si tu prendras le Colossiens, tu regardes le contexte, on parle de Jésus-Christ, c'est clair, nos loges. Alors ça dit, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Il est en train de nous dire que chacun des attributs qu'on sait de Dieu, d'après les Écritures, bonté, grâce, amour, miséricorde, patience, etc., etc., c'était présent, toute la plénitude de la divinité. Donc, il n'y avait rien de la divinité du Père et du Saint-Esprit qui n'existait pas conjointement dans la personne même de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre. Ça dit bien, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. On commence à saisir un petit peu de quoi on parle. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Il est en train encore de nous dire que le monde a été fait par Jésus-Christ. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, c'est ce que je vous dis en toute chose. Actuellement, l'univers, là, quand on se met à étudier c'est quoi l'univers, le nombre d'étoiles, le nombre de galaxies, c'est ahurissant. Puis il nous dit ici qu'il soutient tout ça par sa parole. Il n'utilise même pas sa force, juste sa parole. Il maintient tout ce, faudrait rentrer dans les détails là, pour être encore plus émerveillé, parce que c'est ça dans la réalité. Soutenant toute chose par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce qui est intéressant, c'est le verset 3, quand ça dit « La splendeur de sa gloire est l'empreinte de sa personne ». Je me souviens, quand on a étudié ce texte-là, ça disait « L'empreinte de quelque chose, c'est comme quand tu veux faire une pièce d'argent, disons, les pièces que le gouvernement font, ils font comme une matrice, quelque chose. Puis après ça, la pièce, elle ressemble exactement à la matrice, de façon parfaite, si tu as une bonne matrice, là. Il est en train de dire que Jésus, c'est l'empreinte parfaite de Dieu le Père. Autrement dit, peu importe ce qu'on étudie sur Jésus, sur Dieu le Père, la même chose se trouve en Dieu le Fils et la même chose se trouve en Dieu le Saint-Esprit. Si ça ne nous émerveille pas, à quelque part... OK, après ça, on va aller au dernier nom. On va faire le roi des rois, puis après ça, on va arrêter là. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Un roi, qu'est-ce que ça a? Ça a de l'autorité. Normalement, ça a de la puissance. Et le règne sur toute chose appartient à Dieu. Donc, l'autorité, la puissance et le règne sur toute chose appartiennent à Dieu. Tout cela se manifeste de façon particulière sur ceux qui ont reçu de Dieu du pouvoir, peu importe le domaine. Le Seigneur a un accès très efficace sur l'esprit des leaders de ce monde. On va examiner deux passages dans le livre de Daniel qui nous montrent ça d'une façon particulière. Il s'agit du roi Nabuchodonosor, qui était un souverain d'une extraordinaire puissance. À l'époque, c'était un souverain qui dominait une grande partie de l'Asie, très, très, très puissant, extrêmement puissant. On va aller lire dans le chapitre 2, les versets 37, 38, 44 à 45 et 47. Alors, c'est le fameux passage où Nabuchodonosor a un rêve et il voit une grande statue, puis il voit une roche qui arrive au pied, puis la statue s'écroule. Là, il ne comprend pas, il demande à ses magiciens, à tout le monde, « Donnez-moi l'explication de ça, ils essaient, ils ne sont pas capables. » Là, ils se fâchent, ils disent « Si vous ne me la donnez pas, je vous élimine toute la gang. » Fait que là, à un moment donné, Daniel a eu la compréhension et l'explique. Attends, je vous lis à la verset 37-38. Il dit « Toi, ô roi, tu es le roi des rois. » Ou même humainement, il y a des rois qui avaient des dominations sur d'autres rois. Il dit « Toi, tu es le roi des rois. » auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel en quelques lieux qu'ils habitent et il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Versets 44 et 45. Et dans ce temps, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Le roi parla à Daniel et dit, « Certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Rien que bizarre, parce que pas bébé longtemps après, il venait de se faire donner une leçon. Pas bébé longtemps après, il y a un autre rêve, le grand arbre, et là, il n'avait pas compris encore. Mais là, à un moment donné, le Seigneur s'organisait pour qu'il comprenne. Proverbe chapitre 4, versets 25 et 26. Là, Daniel est en train d'expliquer le rêve de Nabuchodonosor et le grand arbre. « Ils ont te chassera du milieu des hommes. » Et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe, comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel. 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. Autrement dit, écoute, bonhomme, si t'es puissant, c'est parce que je t'ai donné la puissance. Là, je vais te l'enlever, puis tant que tu n'auras pas reconnu que c'est moi qui domine, tu vas rester à manger de l'herbe pendant 7 ans. Et le dernier que je veux regarder, c'est celui de Proverbes, chapitre 2, verset 21. On en a parlé un peu tantôt. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme une eau courante. Il l'incline à tout ce qu'il veut. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On terminera.